Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Xavier Martinet, vous posez aujourd'hui la question, peut-on craindre une aggravation de la situation en République démocratique du Congo ?
Et on va tenter d'éclaircir la situation avec vous, Jean Massombo, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous au téléphone si tôt. Vous êtes politologue au Musée Royal de l'Afrique centrale de Tervuren en Belgique et professeur de sciences politiques à l'université de Kinshasa. Alors, une crise à grande échelle couve, c'est par ces mots inquiétants que le Haut Commissariat aux Nations Unies pour les réfugiés a évoqué hier à Genève la situation de la République démocratique du Congo. Si les violences se poursuivaient, des mots qu'il avait prononcés après une semaine de tensions la semaine dernière, de manifestations graves dans la capitale. Elles avaient fait des dizaines de morts. Tension politique, donc, pour un conflit qu'on pourrait appeler préélectoral, puisqu'à mesure que la date butoir de la présidentielle du 19 décembre approche, la situation s'aggrave en République démocratique du Congo. Le président Kabila ne semble pas prêt à rendre le pouvoir comme il le devrait légalement, et l'opposition demande toujours le strict respect de la Constitution. Alors, ce sont des tensions qui ont commencé il y a un certain temps, déjà, on va en reparler, mais aujourd'hui, les blocages semblent importants. Blocage institutionnel, c'est sûr. Blocage d'un homme aussi, de Joseph Kabila, le fils de Laurent Désiré Kabila, qui est au pouvoir depuis 15 ans. Et puis blocage de l'opposition, qui a refusé de participer au dialogue national qui s'est ouvert le 1er septembre. On va en dire un mot. En fait, derrière tout cela, c'est le spectre de la guerre, le conflit interminable, mais apparaît aussi la fragilité de la République démocratique du Congo. On va s'interroger dessus, c'est ce régime qui encadre 85 millions d'habitants. Et on va s'interroger aussi sur la stratégie de l'homme qui l'incarne, donc Joseph Kabila. Quelques éclaircissements, je le disais, Jean-Omar Massombo, peut-être on pourrait s'interroger sur le degré de tension déjà qui préexiste à cette élection. Donc des manifestations très violentes le 19 et 20 septembre, beaucoup de morts. Il y a eu un rapport du Haut Commissariat aux Nations Unies pour les réfugiés hier qui parlait d'exactions et même d'une certaine préméditation dans les meurtres qui ont été observés. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ?
C'est correct. On observe que depuis plus de 3 ans, on se prépare à cette fin dangereuse. Depuis 2013, on a vu Joseph Kabila le multiplier de stratégies pour faire qu'il puisse rester au pouvoir après la fin de son mandat, qui n'est plus au moins constitutionnel. Et jusque-là, au moins toutes les stratégies mises en place échouent. Alors, Kabila ou rien, ça semble être la stratégie de la majorité, et cela, du point de vue de la Constitution, ça ne doit pas passer. La RDC aurait dû avoir, pour la première fois, une transition entre deux chefs d'État. Malheureusement, cela risque de n'avoir pas lieu.
Alors, on va reparler de tout ça. Juste un mot sur le terme préméditation. Est-ce que, selon vous, ces violences ont été, en quelque sorte, organisées à l'approche des élections ? Organisées pourquoi ? Pour créer une confusion ? C'est un peu ce qu'il faut comprendre ?
Au moment où toutes les stratégies mises en place se bloquent, on a vu une certaine militarisation des enjeux politiques. On a vu des engins militaires en route. Avant le 19 septembre, on a fait circuler dans la ville de Kinshasa de voitures militaires, de canons à eau, de ceci qu'on a acheté en nombre. On a vu le nombre de soldats se multiplier. Et d'ailleurs, depuis un certain nombre d'années, on observe dans les villes, dans les grandes villes, au moins congolaises, la présence accrue de la garde présidentielle. La garde présidentielle, au lieu de rester autour du président, on observe que dans presque tous les grands aéroports du pays, dans les centres importants du pays, la présence de la garde présidentielle qui prend de plus en plus de l'ampleur.
C'est ça, il faut souligner d'ailleurs la position privilégiée, disons, de la garde présidentielle dans les nombreux rapports d'exactions. Peut-être pour avancer un peu sur la stratégie que vous évoquiez de Joseph Kabila, donc stratégie de tension, vous venez de le dire, ce ne sont pas les premières manifestations, pas les premières violences, il y en a eu notamment en janvier 2015. Sur la transition politique, Joseph Kabila a 45 ans, il vient donc de passer un tiers de sa vie au pouvoir, 15 ans. En quelque sorte, on en discutait en préparant l'émission, il a regardé ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso aussi peut-être.
Alors, en 2010, il a regardé ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il a vu que le 2 tours des élections n'avantageait pas le président en place, il a fait supprimer en janvier 2011 le 2e tour et on est passé à un seul tour. Et en 2011, il a été réélu avec 48% de voix Donc, on a perdu la légitimité. Il leur restait dans la légalité, même si cette légalité a été fortement contestée, parce que les élections de 2011 ont été entachées de beaucoup d'irrégularités.
Alors, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un jeu un peu d'équilibriste qu'ils jouent, en tout cas, si c'est un jeu qu'ils jouent, en repoussant au calendrier grec, on pourrait le dire comme ça grossièrement, la date des élections, en ne permettant pas qu'elles se tiennent à la date légale, en faisant peser une pression sur la Constitution et tourner le débat autour de ça. Il y a un dialogue national qui a été engagé. Là encore, ce n'est pas le premier. Il y en avait eu un en 2013. Comme je le disais, la plupart des organisations de l'opposition ont refusé d'y participer désormais. Qu'est-ce qu'il faut en penser de ce dialogue national ?
Moi, je pense que le dialogue dont la forme est convoquée actuellement, il est mauvais. En 2013, Joseph Kabila a fait convoquer ce qu'on appelle les concertations nationales pour tenter qu'on sorte de la Constitution. Cela a été un échec. Fin 2014, il avait tenté de contourner la Constitution en organisant l'identification de la population pour aller aux élections. Cela a été encore un échec, parce que dans sa stratégie, c'est comment dépasser la date de la fin de son mandat et rester définitivement au pouvoir.
Parce que c'était une identification, pardon, qui devait prendre des années, c'est ça ?
Alors l'identification allait prendre au moins 3 à 4 ans. Et d'ailleurs aujourd'hui, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, dit qu'il faudra au moins 2 ans pour qu'on arrive à organiser les élections, donc en 2018. Et pourtant, il est au pouvoir légalement depuis 2006. Il a été élu en 2006, mais il fallait attendre 9 ans pour se mettre à compter la population. Cela est quelque peu étonnant. Je crois que dans le cas de Joseph Kabila, c'est l'exemple d'ailleurs. Il voit que au Burundi, ça s'est fait au Gabon, ça s'est fait au Congo-Brazzaville, ça s'est fait au Rwanda, ça va se faire, mais il veut aussi, alors il s'est dit, pourquoi moi seul ? La difficulté, c'est que la constitution congolaise, elle est suffisamment rigide et claire.
Et puis, c'est du côté légal, effectivement, il y a la Constitution, et puis il y a aussi la constitution d'une opposition sur la longue histoire, on pourrait dire. Il y a une opposition présente, très très diverse cependant, un certain nombre d'opposants historiques aux élections, la société civile. Qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui, maintenant qu'elle a décidé de ne plus participer à ce dialogue national, alors ?
Déjà en 2013, cette opposition avait refusé de participer. Mais il faut dire que Kabila a minimisé cette opposition, parce qu'au moins en 2010-2011, il a réussi à rassembler autour de lui un agrégat qu'on appelle la mouvance présidentielle. Il a minimisé cette opposition. Et d'ailleurs, en 2014, ses partisans disaient que Burkina Faso ne se reproduira pas en RDC. Malheureusement, pour les camps de la majorité présidentielle, en 2015, le ciel est tombé sur la tête de Kabila. Et ce qui fait aujourd'hui l'opposition, c'est que c'est les camps de Kabila qui se fissurent. On a vu le groupe de 7 qu'on appelle le G7, ce sont les ténors de cette partie de la majorité présidentielle qui ont quitté la majorité présidentielle, et cela a renforcé l'opposition. Mais n'oublions pas que cette opposition congolaise suit l'intention ou l'image de la masse. On sent que l'opinion congolaise, aujourd'hui dans sa grande majorité, n'accepte pas que Kabila puisse se reproduire ou dépasser les mandats présidentiels. Dans ce cas-là, cela nourrit l'opposition, et cette opposition est en train de gonfler. Encore que cette fois-ci, Étienne Tshisekedi, qui n'avait pas participé aux élections de 2006, qui est revenu
un des opposants historiques de 2011, oui.
Qui est revenu en 2011, aujourd'hui lui aussi, qui était très malade en Belgique, il a repris un peu de force, il s'installe encore dans cette opposition. Donc les chances de voir Kabila continuer dans son jeu, moi ou le chaos, c'est comme le disait l'ancien président Paulo Mobutu, Kabila reproduit exactement à la lettre le modèle de Mobutu, sauf que dans son cas, quand on n'a pas de muscles, on n'expose pas ses biceps. On n'expose pas ses biceps. Malheureusement, il semble vouloir. Et je crains que, pas pour très longtemps, sa majorité risque de craquer.
Eh bien, c'est dit, à voir si les biceps vont suffire, comme vous le dites, et à voir aussi la réaction de la communauté internationale. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Jean-Omar Sombo, je le rappelle, politologue au Musée Royal d'Afrique Centrale de Tervuren, en Belgique.